Chapitre 28. Vide. Un instant plus tard, tous les sons furent noyés dans un grondement qui semblait annoncer une tornade. Bowman sentit le premier souffle qui l'entraînait. Au second, il eut du mal à se maintenir au sol. L'atmosphère se ruait hors du vaisseau pour jaillir dans l'espace. Il devait être arrivé quelque chose au dispositif de sécurité du SAS. En principe, il était impossible que toutes les portes s'ouvrent au même instant. Mais l'impossible s'était produit. Comment, grand Dieu ? Il n'avait guère le temps d'y réfléchir durant les 10 ou 15 secondes de conscience qui lui restaient avant que la pression soit nulle. Mais il se souvint tout à coup de ce que lui avait dit une fois l'un des constructeurs de l'astronef alors qu'il discutait des systèmes d'urgence. « Nous pouvons mettre au point des systèmes contre les accidents ou la stupidité, mais pas contre la malveillance délibérée. » Luttant pour sortir de l'habitacle, il regarda une dernière fois Whitehead. Il ne pouvait être certain qu'un éclair de conscience fût apparu sur les traits cireux. Peut-être un œil s'était-il entrouvert. Mais il ne pouvait plus rien faire désormais pour Whitehead ou pour les autres. Il devait se sauver lui-même. Dans le couloir courbe de la centrifugeuse, le vent hurlait, emportant des vêtements, des lambeaux de papier, des détritus alimentaires venus de la cuisine, des assiettes, des tasses, tout ce qui avait été soigneusement arrimé jusqu'alors. Bowman eut une ultime vision du chaos, puis les lumières clignotèrent et moururent, et il fut plongé dans les ténèbres mugissantes. Presque aussitôt, le circuit de secours sur batterie prit le relais et la scène de cauchemar réapparut dans une sinistre clarté bleuâtre. Même dans l'obscurité, Bowman aurait retrouvé son chemin dans ces lieux si familiers et maintenant si horribles. Mais la lumière lui permettait d'éviter les objets les plus dangereux emportés par le vent furieux. Tout autour de lui, il sentait la centrifugeuse vibrer et lutter contre les variations de poids. Il craignait que les supports ne finissent par céder. En ce cas, le volant d'entraînement se libérerait et réduirait le vaisseau en lambeaux. Mais cela serait sans importance si Bowman ne parvenait pas à gagner un abri à temps. Déjà, il avait de la difficulté à respirer. La pression devait maintenant être inférieure à 1 kg par centimètre carré. Le hurlement de l'ouragan s'atténuait. Il perdait de sa puissance et l'air de plus en plus ténu portait difficilement les sons. Bowman sentait ses poumons peiner comme s'il se trouvait au sommet de l'Everest. Comme tout homme en bonne santé et suffisamment entraîné, il pouvait espérer survivre au moins 1 minute dans le vide. S'il avait le temps de s'y préparer, mais il ne l'aurait pas. Il ne pouvait guère compter que sur une 15aine de secondes supplémentaires de conscience avant que l'asphyxie submerge son cerveau. Même ainsi, si la recompression était judicieusement appliquée, il pourrait se remettre d'un séjour d'une ou 2 minutes dans le vide total. Il fallait un certain temps avant que les liquides internes se mettent à bouillir dans les vaisseaux dûment protégés. L'exposition maximale au vide était de 5 minutes environ. Ce record n'avait pas été enregistré lors d'une expérience, mais à l'occasion d'un sauvetage réel. Et bien que le sujet eût été en partie paralysé par une embolie, il avait survécu. Mais cela n'était d'aucun secours à Bowman. Il ne se trouverait personne à bord de l'astronef pour le placer en chambre de recompression. Il devait absolument se mettre à l'abri dans les quelques secondes suivantes et sans aide. Heureusement, la progression devenait plus facile. L'air ténu ne pouvait plus agir sur lui ni le bombarder de projectiles. Les lettres jaunes au tournant du couloir annonçaient abri d'urgence et il trébucha dans cette direction, agrippa la poignée et tira la porte à lui. Pendant un horrible instant, il pensa qu'elle était bloquée. Puis les charnières roidies cédèrent et il tomba à l'intérieur, pesant de tout son corps pour repousser le battant. L'étroit habitacle ne pouvait abriter plus d'un homme et un scaphandre. Un cylindre vert marqué 02 était placé à proximité du plafond. Bowman saisit le levier fixé à la valve et, rassemblant ses dernières forces, il l'abaissa. Un torrent d'oxygène pur, d'oxygène frais, se déversa dans ses poumons. Un moment, il chercha son souffle comme la pression s'élevait dans le minuscule abri. Puis, dès qu'il put respirer à l'aise, il referma la valve. La charge de gaz n'était prévue que pour 2 utilisations et il pourrait fort bien en avoir de nouveaux besoins. Tout était redevenu silencieux. Il tendit l'oreille. Le grondement s'était tu. Le vaisseau était vide. Toute son atmosphère avait été aspirée dans l'espace. La vibration frénétique de la centrifugeuse avait cessé elle aussi. Les secousses s'étaient interrompues et le carrousel tournait à présent dans le vide. Il plaqua l'oreille contre la paroi dans l'espoir de capter des sons révélateurs venus des profondeurs du grand corps de métal du vaisseau. Il ne savait pas ce qu'il devait attendre maintenant. Il était prêt à n'importe quoi. Il eût été à peine surpris de percevoir la vibration à haute fréquence des moteurs modifiant la course de l'astronef. Mais il n'y avait que le silence. S'il le désirait, il pouvait survivre une heure, même sans scaphandre. Dommage de gâcher l'oxygène de l'abri, mais il était inutile d'attendre plus longtemps. Déjà, il avait décidé ce qu'il allait faire. Plus il s'attardait, plus cela serait difficile. Lorsqu'il eut remis son scaphandre et vérifié l'étanchéité, il chassa l'oxygène de l'abri et égalisa les pressions. La porte s'ouvrit sur le vide et il sortit dans le carrousel silencieux. Seule la gravité persistante révélait qu'il fonctionnait toujours. Par chance, songea Bowman, il n'avait pas accéléré. Mais c'était maintenant le moindre de ses soucis. L'éclairage de secours baignait toujours le couloir et il disposait en plus du projecteur de son scaphandre pour le guider. Il flotta au-dessus du sol en direction des hibernacles, terrifié à l'idée de ce qu'il allait y trouver. Tout d'abord, il vit Whitehead. Un seul regard lui suffit. Il avait toujours pensé qu'un homme en hibernation ne se distinguait pas d'un cadavre, mais à présent il savait que c'était faux. Bien que la différence fût impossible à définir, elle existait. Les lampes rouges et les tracés parfaitement rectilignes du système biosensoriel ne faisaient que confirmer ce qu'il avait immédiatement compris. C'était la même chose pour Kaminsky et Hunter. Il ne les avait jamais bien connus. Plus jamais il ne les connaîtrait vraiment. Désormais, il était seul dans un vaisseau sans atmosphère, partiellement désemparé, sans moyen de communication avec la Terre. Il n'y avait pas d'autre être humain à moins d'un demi-milliard de milles. Pourtant, il n'était pas absolument seul. Et il devait l'être s'il désirait survivre. Jamais auparavant, il n'avait franchi l'axe central du carrousel en scaphandre. Il y voyait mal, et la progression était pénible et complexe. Pour améliorer encore la situation, le passage était encombré de débris laissés par la tempête. À un moment, le faisceau lumineux vint se poser sur une horrible tache rouge et Bowman réprima une nausée avant de comprendre, en découvrant les restes d'un conteneur de plastique, qu'il s'agissait seulement de confitures projetées par l'un des distributeurs. La bulle rouge se mit à dériver dans le vide de façon obscène. Bowman quitta le carrousel et progressa vers la passerelle de contrôle. Il agrippa une échelle et s'éleva barreau après barreau tandis que le projecteur de son casque projetait devant lui un cercle vacillant. Il était rarement venu là auparavant. En vérité, il n'avait jamais rien eu à y faire. Jusqu'à présent. Il atteignit une petite porte en ellipse où figuraient des mentions telles que « Interdit au personnel non autorisé ». Avez-vous le certificat H19 et zone ultra décontaminée, veuillez revêtir une tenue pressurisée. La porte, bien que close, était placée sous triple scellé dont l'un portait l'emblème de l'agence astronautique. Mais Bowman n'aurait pas hésité à briser le sceau du président lui-même. Il n'était venu en cet endroit qu'une seule fois, lors de la construction du vaisseau. Il avait oublié que la chambre, avec ses colonnes et ses rangées d'éléments logiques qui lui donnaient l'aspect d'une salle des coffres, était pourvue d'une des lentilles de vision de Karl. Immédiatement, il sut que le cerveau avait réagi à sa présence. Il perçut le sifflement de l'onde porteuse quand l'émetteur s'éveilla. Puis la voix familière se fit entendre dans son casque. « Il semble que quelque chose se soit produit dans le système vital, Dave. » Il ne répondit pas. Il étudiait attentivement les signes minuscules portés sur les éléments et déterminait son plan d'action. « Dave, as-tu localisé la panne ?» L'opération allait être difficile. Il ne s'agissait pas seulement de couper l'alimentation en énergie de Carl, ce qui aurait suffi sur Terre pour un ordinateur aliéné. Carl était muni de 6 systèmes différents et indépendants. Le complexe de réponse finale consistait en une unité d'isotopes blindés. Non, Bowman ne pouvait se contenter de relever une manette. À supposer qu'il en eût été ainsi, il en serait résulté un désastre. Carl était le système nerveux de l'astronef. Sans son contrôle, Explorateur 1 serait une carcasse mécanique. La seule solution consistait à neutraliser les centres supérieurs de ce cerveau brillant mais malade, tout en gardant intacts les systèmes de régulation purement automatiques. Bowman n'agissait pas en aveugle. Le problème avait été soulevé durant la période d'entraînement. Mais nul, bien sûr, n'avait songé qu'il pourrait se poser dans la réalité. Il savait qu'il prenait un risque terrible. Au moindre faux mouvement, ce pouvait être la catastrophe. « Je pense qu'il y a eu une défaillance dans le dispositif des sas du garage », dit Carl sur le ton de la conversation. « C'est une chance que tu n'aies rien eu. » « Nous y voilà », songea Bowman. Si l'on m'avait dit que je me retrouverais un jour en train de tenter une opération du cerveau en amateur, une lobotomie au large de Saturne. Il libéra la fixation de la section « Feedback » d'information et retira le premier bloc mémoire. Le prodigieux assemblage qui contenait des millions d'éléments tout en pouvant tenir dans le creux de la main partit à la dérive. « Dave, que fais-tu ?»« Je me demande s'il ressent la souffrance », songea Bowman. « Sans doute pas. Après tout, il n'existe aucun prolongement sensoriel dans le cortex humain. On peut l'opérer sans anesthésie. Une à une, les minuscules unités de la section renforcement d'ego partirent dans le vide. Chaque bloc mémoire, lorsque Bowman le lâchait, allait toucher la paroi avant de rebondir. Bientôt, il y eut tout un essaim d'unités flottant dans la chambre. « Écoute, Dave, je possède de nombreuses années d'expérience. Un effort scientifique inégalable a permis de me construire. »
Grâce à la dispersion de ses schémas, l'ordinateur conservait encore son intégralité de pensée. Il lui manquait pourtant de nombreuses unités. En ceci également, il ressemblait au cerveau humain. Bowman s'attaqua à la section d'auto-intellectualisation.
« Dave, je ne comprends pas pourquoi tu me fais cela. J'ai pour cette mission le plus grand enthousiasme. Tu détruis mon esprit. Ne le comprends-tu pas, Dave? Je ne serai plus qu'un enfant. Je ne serai plus rien. C'est plus dur que je ne croyais, songea Bowman. Je tue la seule autre personne consciente de mon univers. Il le faut. Il faut que je reprenne le contrôle du vaisseau. Je suis un ordinateur Carl 9000 de la série numéro 3. Je suis entré en opération à l'usine Carl à Urbana, Illinois, le 12 janvier 1997. Hibou, caillou, chou, genou. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Dave, tu es toujours là? Sais-tu que la racine carrée de 10 est 3,16227760168379? Le logarithme 10 de la base E est 0,43429448190325 2. Pardon, je voulais dire le logarithme E de la base 10. La réciproque de 3 est 0,333333333333333. 2 fois 2 font. 2 fois 2 font. Approximativement 4,10101010101010. Il semble que j'ai quelques difficultés. Mon premier instructeur était le docteur Chandra, il m'avait appris une chanson. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu.
La voix s'interrompit si brusquement que Baumann se figea, les doigts serrés sur un bloc mémoire encore en circuit. Et puis, de façon inattendue, Karl se mit à parler. Le débit était plus lent et les mots avaient une intonation mécanique. Il ne reconnaissait plus la voix de Karl.
« Bonjour, docteur Chandra. Ici, Karl. Je suis prêt pour ma première leçon. »
Il ne pouvait plus supporter ça. Il fit sauter la dernière unité et Karl se tut à jamais.